VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bienvenue à l'édition du vendredi 6 mars 2015. À la une ce soir.
Lutte contre Ebola. Le Libéria ne compte aucun malade dans ses centres de traitement.
Constat d'échec à Addis Abeba, les belligérants sud-soudanais n'ont une nouvelle fois pas réussi à régler leurs différends pour mettre un terme à la guerre civile.
En Côte d'Ivoire, les tensions au sujet de la présidentielle d'octobre prochain s'aggravent de jour en jour.
Notre détermination à faire partir M. Ouattara par les urnes est sans équivoque et la portée de vengeance telle qu'appliquée par M. Alassane Dramane Ouattara n'est pas celle qu'il nous faut pour réunifier notre pays.
Kakabé Kwadio Konan Bertin, membre du PDCI.
À Tikrit, en Irak, l'offensive contre l'État islamique a poussé 28 000 personnes à fuir, selon l'ONU.
Nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Au Nigeria, dans le nord du pays, des membres de Boko Haram se rapprochent de Gouza, leur fief. C'est ce qu'a fait savoir une source du renseignement à la Voix de l'Amérique. Déjà hier, on annonçait que les djihadistes nigérians s'étaient rassemblés dans cette ville. Des exactions y avaient été rapportées.
Vers un changement de constitution au Congo à l'approche des élections en 2016. Le parti au pouvoir réitère la nécessité de changer les textes. La constitution de 2002 qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2 et l'âge des candidats à 70 ans a fait son temps, estime Pierre Ngolo, secrétaire général du PCT au Congo-Brazzaville, cité par l'AFP. L'opposition soupçonne le parti congolais du travail, de chercher ainsi à offrir au président Denis Sassou Nguesso la possibilité de se représenter.
Toujours parlant d'élections, le représentant de l'Union européenne au Burundi, Patrick Spirley, ne souhaite pas une candidature du président burundais Pierre Nkurunziza à un troisième mandat lors de la présidentielle de juin. Le diplomate a mis en garde contre la possibilité de troubles.
Et c'est le pays qui déplore le plus grand nombre de décès causés par le virus Ebola, mais il est aussi le premier à ne compter aucun malade dans ses centres de traitement. Le Libéria marque ainsi une avancée majeure contre la maladie. On fait le point avec Michel Joseph.
Béatrice Yordoldo, professeure d'anglais, mère de 3 enfants emportés par l'Ebola, a quitté le centre de traitement hier. C'était la dernière malade officielle. C'est le soulagement, bien évidemment, dans le pays, mais ça ne veut pas dire que le danger est complètement écarté. Au Libéria, le bilan a été de 4117 morts sur 9249 personnes contaminées. Au pic de l'épidémie, il y a 6 mois, environ 300 nouveaux cas étaient enregistrés par semaine. Autre pays touché par le virus, la Guinée et la Sierra Leone, les deux pays présentent une résistance de la maladie. La semaine dernière, 132 nouveaux cas y ont été confirmés, soit 34 de plus que la semaine précédente. Dans les labos de recherche, c'est toujours la course contre la montre. Les tests d'efficacité de certains traitements et vaccins ont été accélérés. Demain, le vaccin canadien, VSV et BOV, va entrer dans la dernière phase d'évaluation en Guinée. Rappelons que depuis le déclenchement de l'épidémie d'Ebola début 2014, il y a eu près de 24 000 cas enregistrés d'Ebola dans 9 pays et près de 10 000 décès selon le dernier bilan de l'ONU.
Les belligérants sud-soudanais n'ont une nouvelle fois pas réussi à régler leurs différends pour mettre un terme à la guerre civile qui ravage leur pays depuis près de 15 mois. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Dessalin au nom de l'organisation intergouvernementale est-africaine IGAD qui avait donné aux deux parties jusqu'au 5 mars pour s'entendre. Le point avec Lionel Gaïma.
En fin de compte, malgré la menace de sanctions en cas d'échec de pourparlers, le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar sont restés sourds aux appels de la communauté internationale. Les négociations devant mettre fin à 15 mois de conflit au Soudan du Sud ont été rompues ce vendredi. Le chef rebelle accuse le gouvernement. Nous avons fait de notre mieux pour arriver à un accord de paix, mais c'est devenu impossible en raison de positions adoptées par le gouvernement. Nous n'acceptons pas la défaite. Le premier ministre éthiopien a promis qu'il y aura un nouveau mécanisme pour le pourparler. Donc nous allons attendre afin de poursuivre les négociations de paix. Dans le camp du pouvoir, on souhaite avoir plus de temps pour parvenir à une entente sur la structure du gouvernement d'Union nationale et les réformes institutionnelles. Pour le ministre de l'Information, Michael Makuei, on ne peut pas parler d'échec. Des progrès ont été réalisés et le gouvernement est optimiste quant au retour de la paix au Soudan du Sud. Le premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn était présent lors des entretiens de ce vendredi où Salva Kiir et Riek Machar étaient face à face. Il a dit aux deux dirigeants que la poursuite de la guerre est moralement et politiquement inacceptable et que l'organe régional de médiation, IGAD, s'attend à ce que les partis respectent leurs engagements quant à la formation d'un gouvernement de transition d'ici le mois de juillet.
En Égypte, au moins 7 personnes, dont des enfants, ont été tuées ce vendredi dans une collision entre un train et un bus scolaire à l'est du Caire, ont rapporté des responsables médicaux et de sécurité. 26 personnes ont également été blessées, dont 7 grièvement, a précisé le porte-parole du ministère de la Santé. L'Égypte connaît régulièrement de graves accidents routiers ou ferroviaires dus à une circulation anarchique des véhicules vétustes, des routes et des voies ferrées mal entretenues et peu surveillé.
Le chaos en Libye continue de déstabiliser ses voisins. Le conflit favorise notamment la contrebande le long de la poreuse frontière avec la Tunisie et l'Algérie. Une importante cache d'armes vient d'être découverte près de la frontière libyenne en Tunisie. Elle contenait des kalachnikovs, des roquettes, des grenades et des munitions. Pour le ministère tunisien de l'Intérieur, ces armes proviennent de Libye et étaient destinées aux régions montagneuses de Tunisie, à la frontière avec l'Algérie, où les forces armées tentent depuis plus de 2 ans de démanteler un maquis djihadiste.
La Libye aurait-elle financé la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007? C'est la question à laquelle tente de répondre la justice française. Claude Guéant, ex-ministre de l'Intérieur de Sarkozy, a été placé en garde à vue aujourd'hui, révèle l'AFP, citant des sources concordantes. Des juges d'instruction s'interrogent notamment sur un virement de 500 000 euros sur le compte de Claude Guéant, bras droit de Nicolas Sarkozy.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nous vous l'annoncions en début de semaine, l'armée irakienne a lancé une vaste offensive pour reprendre à l'organisation État islamique Tikrit, la ville natale de l'ancien dictateur Saddam Hussein. À l'heure où les combats s'intensifient, près de 28 000 personnes ont dû fuir selon l'ONU. Les derniers développements avec Salwa Jafari.
Les militants de l'État islamique sont bien là, déterminés à garder Tikrit le plus longtemps possible. Sinon résolus à laisser leur marque au cas où ils devraient quitter les lieux. Hier, ils ont brûlé les puits de pétrole d'Agil dans la périphérie de la ville pour se protéger des frappes aériennes. Plus vicieux encore, ce crime de guerre, pour reprendre l'expression de l'agence culturelle de l'ONU, Daesh a rasé le célèbre site archéologique de Nimroud, 3000 ans d'histoire, balayé d'un revers de la main. La bataille de Tikrit est un test majeur pour les forces irakiennes et les milices alliées. Bagdad s'est dit confiante d'atteindre la ville ce soir. En attendant, près de 28 000 personnes ont dû fuir vers la ville de Samara. Elles viennent s'ajouter aux 2,5 millions de personnes déplacées dans le pays. L'ONU s'inquiète de leur sort. Plus inquiétant encore, selon l'organisation internationale, ce discours du premier ministre irakien Haider al-Abadi. Il a estimé que dans cette bataille, il n'y a pas de parti neutre. Toute personne choisissant la neutralité se ranger de facto du côté de l'État islamique.
Le chef de l'UNESCO a condamné la destruction bulldozer de l'ancienne ville assyrienne de Nimroud dans le nord de l'Irak par des militants du groupe État islamique. Pour Irina Bokova, la destruction délibérée du patrimoine culturel de l'humanité constitue un crime de guerre.
Un Palestinien a foncé aujourd'hui avec sa voiture sur des Israéliens à Jérusalem, blessant 5 d'entre eux, dont 4 membres des forces de sécurité, avant d'être blessé par les tirs d'un policier, a indiqué la police. L'attaque s'est produite en pleine fête juive de Pourim et au moment où les tensions israélo-palestiniennes sont vives, souligne l'AFP. La police n'a pas voulu rendre public le nom de l'auteur présumé de l'attaque, âgé d'une 20aine d'années, mais des membres de sa famille ont indiqué à l'AFP qu'il s'agissait de Mohamed Mahmoud al-Salaimi.
Le chef militaire de la branche syrienne d'Al-Qaïda et plusieurs de ses lieutenants ont été tués dans le nord-ouest de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme cité par l'AFP. Le front al-Nosra, qui combat sur plusieurs fronts dans le pays en guerre, n'a pas confirmé le décès du commandant Abu Aman al-Shami, un vétéran de la guerre en Afghanistan, et les versions divergent sur la date et les conditions de sa mort.
Ici aux États-Unis, la famille de Michael Brown, le jeune noir abattu par un policier à Ferguson dans l'État du Missouri en août 2014, compte porter plainte au civil contre le policier et la ville de Ferguson. La mort de Michael Brown sous les balles du policier Darren Wilson avait donné lieu à des semaines d'émeutes violemment réprimées par la police.
L'économie des États-Unis a créé en février davantage d'emplois que prévu et la baisse du taux de chômage a dépassé les attentes des analystes selon les chiffres publiés aujourd'hui par le département du travail. L'activité économique a généré 295 000 emplois nets, battant l'estimation médiane des analystes qui tablait sur 240 nouvelles embauches. Néanmoins, le chiffre de janvier a été nettement révisé à la baisse à 239 000 contre 257 000 pour la première estimation. Le taux de chômage s'est établi à 5,5% en février, glissant de 0,2 point par rapport à janvier, 5,7%. Les analystes misaient sur 5,6%. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Nathalie Barge.
Les États de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest vont émettre 2865 milliards de francs CFA de dette en 2015, rapporte Jeune Afrique. La Banque centrale pense que cela ne devrait pas menacer leur stabilité économique, notamment en raison d'une croissance estimée à 7,2% cette année. Ce montant de 2865 milliards de francs CFA est toutefois nettement inférieur aux 3 450 milliards annoncés l'an dernier. Le coût de l'adaptation au changement climatique en Afrique risque de s'élever à 50 milliards de dollars par an d'ici 2050, indique un rapport des Nations Unies pour l'environnement avec Climate Analytics et African Climate Finance Hub. Selon l'agence Ecofin, le rapport montre que le monde n'est pas du tout sur la bonne voie pour maintenir le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés Celsius. Les coûts d'adaptation dans les pays en développement pourraient atteindre 250 à 500 milliards de dollars par an à partir de 2050. Un manuel de procédure simplifié de l'étude de faisabilité du projet d'extension du chemin de fer camerounais vers le Tchad a été adopté, indique l'agence de presse africaine. Le tracé s'étendra du terminus de Ngaoundéré au Cameroun vers N'Djamena sur une distance de 1400 km.
Merci Nathalie Barge. Et on passe tout de suite, Morgane, à la page sport qui nous sera présentée par...
Jacques Aristide.
Bonsoir Morgane.
On voulait tout simplement Gabi. Te faire entendre la voix de Morgane.
Évidemment.
Alors, une nouvelle un peu triste. Un bus transportant des joueurs de foot des Kano Pillars au Nigeria, attaqué par des hommes armés dans le sud-est.
Oui, tragédie Gabi. Au moins 5 joueurs ont été blessés par balle d'après la Ligue Nationale. Alors, le match d'ouverture du championnat national qui était prévu hier entre les Kano Pillars et Heartland, ce match a été reporté.
Suite de la saga du Mondial 2022 au Qatar, le président du comité d'organisation rassure.
Hassan Al-Tawadi a déclaré que son pays serait prêt, quelle que soit la date choisie pour le tournoi par la FIFA. Les gens, dit-il, vont se rendre compte que ce tournoi en 2022 va changer les choses. La FIFA a recommandé l'organisation en hiver du Mondial 2022 au Qatar, de fin novembre à fin décembre, pour éviter les chaleurs étouffantes de l'été et ne pas coïncider avec les Jeux Olympiques d'hiver.
Tennis, Coupe Davis.
Les Suisses Roger Federer et Stan Wawrinka, les deux héros de l'édition 2014, ayant décidé de faire l'impasse, la France et la Serbie s'annoncent comme les deux principaux favoris cette année de la Coupe Davis avant le premier tour ce week-end.
Et allons en Grande-Bretagne où il y aura des rencontres de titans. Jacques Aristide.
Oui, effectivement, les quarts de finale de la Coupe d'Angleterre seront marqués par le grand choc entre Manchester United et Arsenal lundi, alors que Liverpool partira largement favori à domicile face à Blackburn dimanche. Mais avant cela, deux matchs demain, Bradford croisera le fer avec Reading, alors qu'Aston Villa sera aux prises avec West Bromwich.
En quelques secondes, résultat de la NBA basketball.
Oui, très rapidement. Alors les Chicago Bulls se
sont imposés la nuit dernière, 108 à 105 face au Oklahoma City Thunder, malgré les 43 points de Russell Westbrook, une nouvelle fois intenable.
Merci Jacques Aristide.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin d'Orsil et Morgane Guiriec en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale ce soir, la Côte d'Ivoire.
Aucune accalmie au sein du PDCI-RDA, principal parti allié du RDR au pouvoir. Les tensions au sujet de la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire s'aggravent de jour en jour, précisément autour de la candidature de l'actuel chef de l'État. Quatre ténors du parti ont rejeté ce qui est désormais connu comme l'appel de Dorcro du président du PDCI, Henri Konan Bédié. Dans une interview exclusive à VOA Afrique, Kwadio Konan Bertin, ou Kakabé, un des quatre frondeurs, affirme que le tsunami politique que connaît le PDCI conduit déjà le parti vers l'éclatement. Il indiquait que lui et les trois autres contestataires vont tout faire pour barrer la route à Alassane Ouattara.
Ce qui se passe en Côte d'Ivoire et principalement au PDCI est tout à fait inédit. Jamais je n'ai vu ça nulle part dans une démocratie. Voici un parti politique, le PDCI-RDA, le parti du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, qui a libéré la Côte d'Ivoire et qui a bâti ce pays, qui doit participer à un scrutin. Eh bien, le président Henri Konan Bédié décide tout simplement, de façon unilatérale, de faire en sorte que ce parti-là n'ait pas de candidat. Et pourtant, le congrès, le dernier congrès, le 12e, a exigé que le PDCI ait un candidat.
Mais l'actuel tsunami au PDCI peut-il conduire à l'éclatement du parti?
Le parti, c'est une évidence pratiquement qu'il a éclaté. Il y a d'un côté les militants du PDCI-RDA que nous sommes, qui restons fidèles à la mémoire de Félix Houphouët-Boigny, te demandant l'application stricte des résolutions de notre congrès et qui demandant que le PDCI continue de vivre sur le chiquier national. Et de l'autre côté, les militants du PDCI-RDR qui, eux, ont fait alliance avec Alassane Ouattara. Je leur souhaite bon vent.
Allez-vous désigner parmi vous un porte-étendard, former une union sacrée ou bien des candidatures indépendantes?
L'union sacrée est là. L'union fait la force, dit-on. Et tous les quatre, nous sommes en pourparler justement, pour dégager la stratégie la plus efficace possible pour battre M. Alassane Dramane Ouattara. Si nous estimons que la meilleure stratégie pour battre Ouattara, c'est de trouver un candidat des quatre, oui. Pourquoi pas? Eh bien, si nous estimons qu'en allant à 2, à 3 ou à 4, c'est plus efficace, bon, on appréciera. Mais toujours est-il que nous sommes conscients des enjeux et notre détermination à faire partie M. Ouattara par les urnes est sans équivoque. Et tous les quatre, nous sommes en pourparler pour justement dégager la meilleure stratégie possible pour battre M. Ouattara.
Éventuellement un candidat?
Naturellement, si ça passe par désigner un candidat, oui, pourquoi pas, nous le ferons dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire tout entière qui a besoin de réconciliation vraie, parce que croyez-moi, 5 années de vengeance, ça suffit. La Côte d'Ivoire a besoin de se retrouver, les Ivoiriens ont besoin de se retrouver, et la portée de vengeance telle qu'appliquée par M. Alassane Dramane Ouattara n'est pas celle qu'il nous faut pour réunifier notre pays, pour le remettre sur le rail du développement, parce qu'ils sont encore des milliers qui sont en prison, qui attendent un jugement, qui sont encore des milliers qui sont en exil. C'est pas comme ça que la Côte d'Ivoire va se bâtir.
Y a-t-il un choix qui a déjà été fait, un nom?
Non, pas encore. Pour l'instant, je vous parle en qualité de candidat à l'élection présidentielle. Et je pense que les trois autres encore sont candidats. Donc, je dis, nous sommes en train de discuter. On verra bien la stratégie la plus efficace. Si elle consiste à désigner, si elle nous impose un choix, c'est-à-dire désigner un seul d'entre nous, pourquoi pas, nous le ferons dans l'intérêt supérieur du peuple de Côte d'Ivoire.
Kwadio Konan Bertin du PDCI-RDA, candidat pour le moment, interrogé par Jacques Aristide, ici à Washington.
Au Burkina, réaction aux déclarations du président Michel Kafando concernant les forces armées auxquelles il a demandé de s'abstenir des chapelles politiques. La presse a largement mis l'emphase sur l'appel à l'union des militaires. Mais toujours est-il que la question du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, demeure posée. Dans le public, on réclame la dissolution de ce corps militaire. Pour un éclairage, nous avons joint à Ouagadougou le journaliste indépendant Ben Youssouf Minungu.
Il faut noter que les journaux du jour ont préféré peut-être mettre l'accent sur le fait qu'il a appelé l'armée, les forces armées nationales à l'union. Par exemple, pays du jour, titre Michel Kafando appelle les forces armées à l'union. De ce que le président de la transition a dit, nous pouvons retenir que l'armée nationale a été un acteur majeur de la politique de notre pays pendant 47 ans. Donc, après 47 ans, et même dans cette transition, l'armée est en train de jouer un grand rôle dans cette transition. Mais ce qui pose problème présentement, c'est qu'une partie de la société civile, ou même une grande majorité de la société civile, voulait que cette transition-là soit totalement civile. Mais il est arrivé que, bon, l'armée était aux avant-gardes aussi de l'insurrection. Ils se sont initiés dans les affaires politiques pour dire, ainsi dire qu'ils ont continué aussi à gérer encore le pouvoir d'État.
Qu'est-ce qui s'est passé récemment au Burkina qui a poussé le président à faire une pareille déclaration?
Et il s'agit en fait de la question de notre régiment de sécurité présidentielle qui, par deux reprises, a empêché la tenue d'un conseil de ministres. Donc cela n'a pas été du goût dans l'opinion nationale. Et en même temps, la question de la dissolution de ce régiment-là s'est posée dans le débat national. Donc certainement que le président, en se retrouvant devant tout ce parterre d'officiers, les têtes de notre armée nationale, a profité, bon, leur envoyer ce message. Non seulement il a demandé à ce qu'ils soient unis, et en plus, il dit qu'il est temps maintenant qu'ils s'éloignent de la vie politique. Bon, il faut aussi voir que dans les potentielles candidatures à la présidentielle de 2015, il y a déjà plusieurs militaires qui sont en train de vouloir troquer le treillis et puis compétir pour cette élection présidentielle. Et même sous la transition, je venais de vous dire que le premier ministre était un militaire.
Justement, nous parlons du colonel Isaac Zida, premier ministre. Quelle a été sa réaction jusqu'à présent?
Il ne peut pas donner de réaction puisqu'il était au présidium avec le président en tant que ministre de la Défense.
Merci Ben Youssouf Minungu, journaliste indépendant, joint à Ouagadougou.
Lancement en Guinée d'un essai de phase 3 pour tester l'efficacité du vaccin VSV Ebov contre le virus à Ebola. Ce vaccin a été mis au point par l'Agence de la Santé publique du Canada. Il s'agit de déterminer si le vaccin protège les personnes en contact avec des malades souffrant du virus à Ebola et si la vaccination des contacts permet de créer une zone tampon pour éviter la propagation de la maladie. D'autres précisions avec le docteur Marie-Pierre Préziosi, spécialiste des vaccins à l'Organisation mondiale de la santé.
Il s'agit des deux candidats vaccins contre la maladie à virus Ebola qui sont les plus avancés en termes de développement clinique. Donc le vaccin VSV Ebov, produit par le fabricant Merck, et le vaccin SHAD3 Ebov, produit par le fabricant GSK.
La vaccination va commencer dans quelle région?
Elle va commencer dans la région de la capitale, Conakry, et dans les préfectures qui entourent la capitale, soit la région de la Basse-Guinée, car c'est là, à l'heure actuelle, qu'il y a les cas.
Et vous allez, bien sûr, vacciner des personnes après avoir demandé leur consentement, etc.
Tout à fait. Oui, il s'agit d'un essai clinique de phase 3, donc une étude clinique de phase 3, qui est faite selon les bonnes pratiques cliniques, qui requièrent, bien évidemment, le consentement informé de tout participant.
Les vaccins développés par le Canada ont en fait rapidement émergé comme les outils prometteurs en raison de leur efficacité dans les études sur les primates non humains.
Tout à fait, oui. C'est bien cela. Et il y a eu aussi des études quand même chez l'homme qui ont aussi confirmé une bonne tolérance donc, et une bonne immunogénicité. On ne peut pas encore parler d'efficacité. L'efficacité, c'est un terme qu'on peut employer lorsqu'on constate que ça empêche la maladie. Là, on constate qu'il y a une réponse du système immunitaire avec un développement notamment d'anticorps qui sont dans les limites qu'on pense être protectrices, mais pour l'instant, on ne peut pas affirmer l'efficacité. C'est pour ça qu'on doit faire un essai clinique de phase 3. Ce qui est important, c'est que là, on doit vraiment retenir notre souffle parce qu'on pourrait rentrer dans une phase très importante pour cette épidémie et pour les futures épidémies Ebola. C'est que si on peut montrer qu'un vaccin marche, on aura alors un outil très puissant pour lutter contre ces épidémies aujourd'hui et à l'avenir.
Le docteur Marie-Pierre Préziosi, spécialiste des vaccins à l'Organisation mondiale de la santé.
La Voix de l'Amérique au Sénégal sur Top FM à Dakar et Radio Al-Fayda à Kaolack.
Cap sur le Sénégal où la grève des profs du supérieur fait encore l'actualité. Nous avons joint dans la capitale sénégalaise notre envoyé spécial Idriss Fall.
Dans une interview hier, M. Yankoba Saïdi, qui est le coordinateur national du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, a lancé un ultimatum disant que demain, samedi, ils vont tenir une assemblée générale pour y décider d'une grève générale illimitée ou arrêter le mouvement. Depuis deux semaines, l'université sénégalaise est presque paralysée. Les professeurs d'université contestent une loi cadre. Une loi qui permet d'amener le privé à l'intérieur du conseil d'administration. Les professeurs disent que cela ferait perdre à l'université sa nature même, son indépendance et son autonomie, d'autant qu'en fait, ils disent que ces privés seront nommés par le ministre de l'enseignement supérieur. Et ils craignent en fait une perte de l'autonomie des professeurs, d'autant qu'ils disent que dans le conseil d'administration, il y aurait 20 membres qui viendraient du secteur privé et 5 membres du secteur universitaire. Donc c'est ça en fait la cause réelle de la bagarre qui oppose le syndicat à l'État. Et derrière cela, en fait, c'est la Banque mondiale qui avait proposé une telle idée pour essayer de rapprocher les études universitaires avec la formation pratique que peut donner le privé. Donc c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Et depuis que je suis là, donc c'est des grèves à répétition. Et dès demain samedi, on saura est-ce que ils vont arrêter ou ce sera une grève générale illimitée.
Dans le milieu étudiantin, quelle est la réaction?
Beaucoup d'étudiants avec lesquels j'ai parlé, ils sont contre cette grève parce que ça fait des années que l'université, c'est le théâtre de la contestation. L'année dernière, ce sont les étudiants eux-mêmes qui étaient en grève parce que l'État avait décidé d'augmenter les frais d'inscription. Cette année, ce sont les professeurs. Ils craignent une année blanche. Écoutons un des étudiants de l'université.
Moi, je me nomme Abdi Diouf. Je suis étudiant au Fac Lettres dans le département d'histoire. Mais par rapport aux grèves des professeurs, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que nous sommes maintenant dans le mois de mars. Moi, j'ai fait que deux cours, ce qui n'est pas normal, parce que l'année a débuté depuis octobre. Moi, je lance un appel aux professeurs de venir faire les cours pour ne céder pas.
Voilà, et tout ceci intervient dans un contexte de tension politique, parce que le fils du président Abdoulaye Wade, donc Karim Wade, le verdict de son procès devrait tomber le 23 mars. Et si, dans deux semaines, disons, la grève continue, les étudiants eux-mêmes risquent de sortir dans la rue. Donc ce sera une affaire à suivre.
Merci Idriss Fall qui est à Dakar où l'on nous écoute sur le 102 FM.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Un bus transportant les joueurs de football des Kano Pillars au Nigeria a été attaqué par des hommes armés dans le sud-est du pays.
Lutte contre l'Ebola, le Libéria ne compte aucun malade dans ses centres de traitement.
Constat d'échec à Addis Abeba, les belligérants sud-soudanais n'ont une nouvelle fois pas réussi à régler leurs différends pour mettre un terme à la guerre civile.
À Tikrit, en Irak, l'offensive contre l'État islamique a poussé 28 000 personnes à fuir selon l'ONU.
En Côte d'Ivoire, les tensions au sujet de la présidentielle d'octobre s'aggravent de jour en jour. À la console technique. Nous avions notre ami Dryden, précédé de Nashwan Calais. Et cette édition a été mise en onde par notre bon ami Georges Léonard Sagnot.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.